Radio Kapi. Oh, Kapi.
Nous sommes le 21 mars, journée mondiale des forêts. Occasion pour l'ONG Les Écologistes RDC d'interpeller l'opinion sur l'occupation et l'exploitation de ces espaces au Nord Kivu par des groupes armés. Ceux-ci font la loi sans respecter aucune norme et sans avoir de compte à rendre à personne. Vous suivez l'appel de Prince Kiangi, son coordonnateur national. À la une aussi, ce bilan sécuritaire et humanitaire préoccupant offre des ADF que dresse la société civile de l'Ituri dans Mombasa. Ces rebelles ont tué au moins 50 personnes rien que ce mois et jeté sur les routes des milliers d'autres. La société civile appelle le gouvernement à se pencher sur la situation précaire de ces déplacés et à restaurer l'autorité de l'État. Patrick Muyaya, ministre de la Communication et Médias, est l'invité de ce journal. Dans une interview exclusive à Radio Kapi, le porte-parole du gouvernement répond à plusieurs questions d'actualité au pays. Cas de changement ou de la révision de la Constitution, des enquêtes annoncées sur l'attaque au drone à Goma et les cas de kidnapping relevés par Human Rights Watch à Kinshasa. Madame, Monsieur, bonjour. Il faut une réflexion sérieuse sur la sécurité des forêts au Nord Kivu. Dans cette province, des forêts sont occupées depuis des décennies par des groupes incontrôlés. Ils exploitent la forêt sans respecter aucune norme et sans avoir des comptes à rendre à personne. Déclaration à Goma de l'organisation Les Écologistes RDC à l'occasion de la Journée mondiale des forêts célébrée aujourd'hui 21 mars. Pour Prince Kiangi, coordonnateur national de cette organisation, il est plus que temps que la question de la sécurité de nos forêts soit une priorité. Car selon lui, on ne peut pas protéger une forêt occupée par des hommes armés. On écoute Prince Kiangi au micro de Rosalie Zawadi.
C'est depuis plus de 30 ans maintenant que la plupart de nos forêts sont occupées d'une manière irrégulière. Que donc des gens s'organisent, ils vont dans la forêt, ils vivent dans la forêt, et ils mangent dans la forêt et ils s'enrichissent à partir de la forêt. C'est par exemple des jeunes qui sont armés, ils vont dans la brousse, ils deviennent l'autorité de la forêt. Ce sont eux qui accordent des autorisations à des gens pour venir couper des bois. Vous avez des marchés ici à Goma. La plupart de ces bois nous viennent de l'intérieur. Et la plupart de ces zones-là sont contrôlées par de jeunes gens qui n'ont aucun compte à rendre à la communauté. Et là, ils font tout ce qu'ils veulent dans la forêt. Et donc, l'aspect sécuritaire, c'est un aspect très important sur lequel nous devons réfléchir pour nous dire comment nous contrôlons nos forêts, qui se trouvent être dans nos forêts, comment ils vivent dans nos forêts, afin que nous ayons le contrôle de nos forêts et que nous sachions que, réellement, nos forêts sont sécurisées, les forêts sont protégées et sont conservées.
Notons que le thème de la Journée mondiale des forêts pour cette année est « Les forêts et les économies », thème qui souligne que les forêts ne sont pas seulement des sanctuaires de biodiversité à protéger, mais aussi des véritables moteurs de prospérité économique durable. En Ituri, l'ONG Consortium pour la sauvegarde de l'environnement alerte sur la menace d'extinction de l'okapi, espèce animale rare dans la réserve de faune actuellement occupée par des rebelles des ADF dans les territoires de Mombasa. Lors d'un point de presse tenu hier vendredi à Bunia, cette organisation dénonce l'orientation par ces rebelles de la guerre dans la réserve pourtant répertoriée dans la liste du patrimoine mondial. Pour cette ONG, il s'agit d'un crime écologique. Elle appelle notamment l'UNESCO à faire pression sur ce groupe armé étranger pour qu'il quitte sans condition cette réserve. Dieudonné Lossa, coordonnateur national de l'ONG Consortium pour la sauvegarde de l'environnement, au micro d'Isaac Rémo.
La province de l'Ituri est répertoriée dans la liste des patrimoines mondiaux écologiques grâce à sa faune à okapi. Cette espèce animale court et danger avec l'intrusion des ADF Nalu et ses supplétifs dans la réserve de faune à okapi. Les attaques récurrentes des villages dans cette réserve étaient signe de sabotage et la volonté délibérée d'exterminer les okapi, espèce protégée uniquement au monde à Mombasa. Orienter la guerre dans la réserve constitue et crime écologique qui devrait attirer l'attention particulière de l'UNESCO ainsi que la communauté internationale, car ce site hébergeant les okapis en captivité disparaîtra si rien n'est fait dès à présent. D'où l'ONG COSAE recommande à l'UNESCO et communauté internationale d'exercer une forte pression sur les ADF et ses supplétifs afin de quitter urgemment et sans condition la réserve de faune à okapi comme fait autrefois contre l'AFC M23 pour quitter Uvira.
À l'occasion de la Journée internationale de la francophonie célébrée hier vendredi 20 mars, le Centre wallonien de Bruxelles de Kinshasa a organisé une grande dictée réunissant enfants et adultes autour de la langue française. Cela s'est déroulé dans une ambiance à la fois studieuse et festive. Jeudi, Daniel Kachama a couvert cet événement.
Moment fort de l'activité, la dictée faite par Koffi Olomide, artiste musicien, devant les lauréats.
Quelque déconcertés que fussent nos habitudes, nous apprîmes à cultiver une obéissance teintée d'admiration et une abnégation nouvelle. J'ai dit.
À la fin de l'exercice, 3 lauréats ont été retenus dans chaque catégorie, enfants et adultes, pour célébrer l'excellence et la maîtrise du français.
Je m'appelle Malumalu Shekina Emia Sheila. Cette dictée était un peu plus difficile, vu les mots prononcés par notre orateur Koffi Olomide.
Moi, je m'appelle au nom de Sintene Bunda Bongi. Le concours était assez simple et j'ai apprécié. Vraiment.
La journée s'est clôturée dans une ambiance festive, mêlant musique, échanges et célébration de la diversité culturelle francophone.
Retour en Ituri, où des milliers de personnes vivant le long de la route nationale numéro 4 ont été contraintes de fuir leur milieu. Elles vivent actuellement dans des conditions précaires. Par ailleurs, au moins 50 personnes ont été tuées par des rebelles des ADF lors de récentes attaques menées notamment à Mouchacha et Babessoua dans les territoires de Mambasa. Ces chiffres ont été publiés hier vendredi par la coordination de la société civile de l'Ituri. Elle appelle le gouvernement à faire de la situation sécuritaire et humanitaire de la province une priorité. Des détails avec Isaac Clément.
À l'espace d'une semaine, 19 au 15 mars, au moins 35 civils ont été tués à Mouchacha par des éléments ADF qui occupent encore ces sites miniers où ils exploitent de l'or. À Babessoua, 15 autres personnes ont également été tuées selon la société civile Force Vive de l'Ituri. Selon cette stricte citoyenne, des dizaines de villages situés le long de la route nationale numéro 4 ainsi que dans les zones forestières environnantes sont aujourd'hui vidés de leurs habitants. Ces derniers errent vers Mambasa Centre et Nyanya après avoir abandonné leurs activités, notamment l'agriculture et l'exploitation artisanale de l'or. Dans ces conditions, les déplacés vivent dans une grande précarité. Le coordonnateur de la société civile appelle le gouvernement congolais à accorder une attention particulière à la situation sécuritaire et humanitaire en Ituri, Dieudonné Lossa.
Au gouvernement de la République démocratique du Congo, de faire une priorité la question sécuritaire de l'Ituri, à l'instar du Nord et Sud Kivu qui remettent à cause l'autorité de l'État. De mener une action coordonnée de grande avenir contre les ADF Nalu, d'apporter sans plus tarder d'assistance holistique à la population sinistrée de Mambasa.
La société civile exhorte également la population à collaborer étroitement avec les forces de défense et de sécurité pour faire face à ces groupes armés. Bounia, Isaac Remoyope, Radio Capi.
Par ailleurs, le gouvernement provincial de l'Ituri se veut rassurant face à la recrudescence des violences attribuées aux rebelles des ADF depuis la semaine dernière. Les autorités indiquent que des dispositions ont été prises pour mettre hors d'état de nuire ce groupe armé. De nouvelles stratégies et conjointes ont notamment été mises en place entre les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu afin de renforcer la coordination des opérations militaires. L'objectif est de démanteler ces rebelles accusés de piller des ressources locales, notamment le cacao et l'or. Précision donnée par le porte-parole de l'armée en Ituri, le lieutenant Jules Langongo à l'issue d'une réunion tenue mercredi à Bounia entre les autorités de deux provinces. On l'écoute au micro des Akrimon.
Le lieutenant général Lubo Yankasha Majoni et le général-major Sombo Evariste Kakule, respectivement le gouverneur militaire de l'Ituri et celui du Nord Kivu, ont échangé sur les phénomènes ADEF, ou cette problématique que nous devons éradiquer complètement et pacifier les deux territoires. Ils se sont réunis à Bounia pour mettre des stratégies communes parce que nous combattons le même ennemi avec le même mode opératoire. Il fallait que ces deux gouverneurs conjuguent les efforts de mettre des stratégies ensemble et de l'exécuter ensemble pour couper les sources des financements de ces ADEF qui cherchent que le cacao, le café et l'or de l'Ituri et de la même manière du côté du Nord Kivu.
Travailler main dans la main dans le cadre des relations interprovinciales afin que les intérêts des uns et des autres soient bien protégés, c'est le plaidoyer du ministre provincial de la Justice, des Droits humains, gens, femmes et enfants et personnes vivant avec handicap du Sud Kivu en séjour au Maniema. Faustin Mayani s'est confié à Florence Kizalunga juste après l'audience qui lui a été accordée par le gouverneur du Maniema.
Depuis que la ville de Bukavu a été assiégée par les rebelles de l'AFC M23, beaucoup d'opérations qui devraient se passer au sud de Kivu se font maintenant au Maniema. Et parmi ces opérations, il y a les achats des minerais, par exemple. Nous devons essayer d'harmoniser les chiffres par rapport aux statistiques pour que la province ici de Kivu bénéficie exactement de sa contrepartie en termes de redevances minières. Mais aussi, nous sommes ici parce que depuis le mois de février, mars, avril, mai et juin 2025, les enseignants d'ici de Kivu étaient payés par la Caritas Kasongo, mais il y a eu beaucoup de réclamations. Voilà pourquoi nous avons amené des notes de réclamation des enseignants, la Caritas Kasongo, pour vérifier, parce qu'ils ont dit qu'ils ont payé, mais les enseignants continuent à réclamer. La même chose avec la Cadeco qui avait ouvert son agence à Shabunda, mais finalement la Cadeco a fermé ses portes. Et comme la Cadeco se trouve ici à Kindu, on a estimé qu'il fallait travailler aussi avec la Cadeco pour savoir comment les contribuables congolais et les particuliers qui ont mis leur argent à la Cadeco, comment ils peuvent accéder à leurs moyens qu'ils ont mis là-bas.
Et puis cette bonne nouvelle pour la population de Kasindi, cité frontalière à Luganda, située à 90 km de la ville de Beni, au nord Kivu. Les travaux d'assainissement du parking central ont démarré jeudi, à la suite de la pression exercée par les habitants. Cet espace commercial était envahi par du tas d'immondices et de déchets ménagers qui dégageaient des odeurs nauséabondes, ce qui rendait la vie des usagers insupportable. La société civile redoute cependant que ces travaux ne soient entravés par la présence de plusieurs véhicules abandonnés sur place depuis plus de 2 ans. Marc Marofimbo pour des précisions.
Tas de déchets plastiques, d'immondices et ordures ménagères parsemaient le parking central de Kasindi-Lubiria, un lieu stratégique où stationnent habituellement les véhicules à provenance de l'Ouganda, du Kenya, du Soudan, de la Tanzanie et de plusieurs localités congolaises. Grâce à la pression exercée par la population sur l'entreprise gestionnaire du site depuis 2 semaines, les travaux d'assainissement ont été lancés mercredi dernier. Témoignage de cet habitant.
On en a marre parce qu'on ne peut pas quand même continuer comme ça. Est-ce qu'il fallait toujours la pression pour que les choses soient exécutées?
Cependant, la présence dans le parking de plusieurs véhicules abandonnés, certains en panne, d'autres déclassés et transformés en véritables poubelles, risque de freiner les travaux. C'est ce que redoute la société civile, comme l'explique son président à Kasindi, Paul Zaidi.
Certains véhicules automobiles endommagés ou abandonnés dans ces parkings continuent d'être visibles et les restaurants qui fonctionnent dans ces parkings divers n'arrivent plus à mettre une canalisation pour les eaux usées.
Les responsables de l'entreprise Jocas Trading, chargés des travaux, rassurent la population. Il appelle les usagers du parking à adopter une gestion responsable des déchets pour garantir la propriété durable de ce site central de Kasindi. Les habitants espèrent toutefois que cette action marque le début d'une gestion plus rigoureuse des espaces publics à Kasindi, longtemps confronté à des problèmes de salubrité chronique. Marc Marofimbo, Beni, Radio Kapi.
Un pas important vient d'être franchi dans le renforcement de la gouvernance du secteur énergétique en RDC. L'École nationale d'administration ENA et l'autorité de régulation du secteur de l'électricité ARE ont signé hier vendredi un protocole d'accord visant à renforcer la formation des cadres et à améliorer la régulation du secteur électrique au pays. Selon la DG de l'ARE, Soraya Aziz Moto, l'objectif de ce partenariat est de promouvoir la formation et le développement des compétences dans les secteurs de l'énergie, en particulier dans les domaines de la régulation. Blachindani Kambala a couvert cette cérémonie.
Selon les responsables de 2 établissements publics, cet accord marque le début d'un partenariat durable axé sur l'excellence, la bonne gouvernance et la modernisation des services publics. Une initiative qui s'inscrit dans la dynamique des réformes de l'administration publique et de l'amélioration de l'accès à l'électricité pour les populations congolaises. Pour le directeur général de l'ENA, son institution est dans son rôle régalien, celui de réformer les institutions publiques. Tombola Mouké.
Et c'est cette expertise que nous mettrons à la disposition de l'ARE qui a une grande mission pour le développement du pays. Je pense même que c'est parmi les missions régaliennes les plus importantes de l'État que de fournir l'électricité à l'ensemble de la population ainsi que aux entreprises qui créent leur richesse.
À son tour, la directrice de l'ARE a affirmé sa volonté de faire passer son institution à la vitesse supérieure.
Il est temps de passer à l'échelle. Nous avons un gap très très important à combler, un déficit énergétique de plus de 3 gigawatts rien que pour arriver au niveau zéro avant de commencer la croissance véritable. Et nous ne pouvons pas passer à l'échelle en mettant en place 10 mégawatts ici, 5 mégawatts par là. Nous devons avoir une intelligence très rapide pour que nos bailleurs des fonds et nos investisseurs étrangers puissent avoir confiance en l'institution.
Ce protocole d'accord est signé pour une période de 5 ans avec possibilité de renouvellement tacite.
Actualité internationale.
Les députés camerounais s'accrochent à leur siège. Jeudi, ils ont une nouvelle fois décidé de voter en faveur de la prolongation de leur mandat jusqu'au 20 décembre 2026. Cela alors que le Parlement devrait être dissous le 10 mars de l'année dernière. La prolongation intervient après le glissement du calendrier des élections législatives et locales annoncé le 10 février dernier par le président Paul Biya. Selon AfricaNews.fr, les autorités invoquent des contraintes financières et organisationnelles pour justifier ce deuxième report des élections.
L'invité.
Patrick Muyaya-Katimbwe, ministre de la Communication et Médias, est l'invité de ce journal. Dans une interview exclusive accordée à Radio Okapi, le porte-parole du gouvernement répond à plusieurs questions d'actualité au pays. Dans cette première partie, il réagit sur le changement ou révision de la Constitution, les enquêtes annoncées par le gouvernement sur les drones tombés à Goma, ainsi que sur le cas de kidnapping relevé par l'ONG Human Rights Watch à Kinshasa et ses environs. Patrick Muyaya-Katimbwe s'entretient avec Blaise Shindani Kambala.
Patrick Muyaya-Katimbwe, bonjour.
Bonjour.
L'actualité congolaise est aussi dominée par ces débats sur une possible révision, voire changement de la Constitution. Quelle est la position du gouvernement à ce sujet?
Je crois que je l'ai déjà dit à plusieurs reprises. Je voudrais le répéter pour que chacun de nous puisse être édifié. Notre pays s'appelle République démocratique du Congo. C'est un pays qui montre depuis des années qu'il est pleinement engagé à l'expansion de la démocratie. Et donc, la démocratie signifie la pluralité d'opinions. Et ces débats-là, nous l'inscrivons plutôt dans les cadres de cet exercice démocratique où les uns et les autres ont des opinions. Moi, j'étais au Canada, j'étais à Paris. Lorsque je discute avec les compatriotes de la diaspora, tous veulent la double nationalité. Mais pour qu'on y arrive, il faut qu'on arrive à retoucher la Constitution. Et donc, il va de soi que les uns et les autres s'expriment là-dessus. Mais moi, je voudrais simplement rappeler ici, et c'est cela le plus important, la priorité pour le gouvernement aujourd'hui, nous travaillons à mettre fin à la guerre. Nous travaillons à desserrer les taux de la gouvernance par crime qui malmène nos populations dans les parties sous occupation. C'est cela notre priorité. Et parce que vous le savez, la redévabilité, c'est une de nos marques de fabrique. Si les sujets devra être abordé au niveau du gouvernement, nous en ferons le point de la manière la plus transparente. Aujourd'hui, moi, je ne voudrais pas que les uns et les autres s'éperdent, parce que la priorité pour nous, c'est ce dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est l'application des accords qui nous permettent de mettre fin à une guerre qui dure 30 ans, c'est la mise en œuvre de l'accord de partenariat stratégique qui va nous permettre de dégager des ressources pour faire les financements du développement de notre pays.
Après les attaques de drones sur des habitations à Goma, la semaine dernière, qui ont causé la mort de 3 personnes, dont une humanitaire française, le gouvernement a annoncé des enquêtes. La question que certains se posent, c'est de savoir comment vous allez vous y prendre, sachant que Goma est sous occupation de rebelles du M23.
D'abord, premièrement, il faut regretter le décès de cette brave dame personnelle humanitaire. Et vous savez que nous, les gouvernements, depuis le premier jour, nous travaillons avec des humanitaires pour être sûr que nous réduisons la masse des problèmes causés par cette occupation rwandaise. Je rappelle ici que si aujourd'hui il n'y a pas encore un couloir humanitaire qui a été ouvert, qui permet d'apporter l'assistance humanitaire à Goma, c'est à cause du refus du père le Rwanda et du fils le M23. Vous vous souvenez qu'au 30 octobre, nous étions à Paris, représentés par le président de la République, à cette grande conférence humanitaire appelée par les présidents Macron, et jusqu'à ces jours, nous n'avons pas avancé parce que le Rwanda et le fils M23 ne veulent pas. Et je rappelle aussi, je suis à Radio Capi, que le Rwanda, par les passés, a attaqué des casques bleus, ils ont attaqué les infrastructures de la MONUSCO, alors que nous, comme gouvernement, notre engagement, je le rappelle, c'est la protection de nos populations et la protection du personnel humanitaire. Ceci dit, vous savez que c'est les pères et les Rwandais qui revendiquent des attaques aux drones sur des aéroports, des infrastructures civiles notamment. Souvenez-nous du chapitre de Bangoka. Mais pour ce qui concerne spécifiquement l'explosion qui est survenue à Goma le 11 mars dernier, le ministre de la Justice a déjà donné injonction à l'auditorat pour que des enquêtes puissent être ouvertes. Je ne pourrais pas aller dans les détails de la procédure qui se passe au niveau judiciaire, mais il y aura de la collaboration, notamment avec la MONUSCO et des autres structures impliquées pour que toute la lumière puisse être faite sur ces sujets-là.
L'ONG internationale Human Rights Watch vient de publier un rapport relatif aux disparitions forcées à Kinshasa. Le gouvernement a réagi en affirmant que la plupart des cas évoqués dans ce rapport avaient notamment été pris en charge par la justice. Donc, vous reconnaissez implicitement qu'il y a eu des cas de disparitions forcées dans cette ville de Kinshasa.
Je crois que sur ces communiqués de Human Rights Watch, si vous lisez les nôtres, nous avons été clairs en disant que d'ailleurs la disparition forcée, on n'en avait pas la même définition et les faits les démontrent. N'oubliez pas, monsieur le journaliste, que nous sommes dans un contexte de guerre. Nous savons tous que le père, le Rwanda, et les fils, le M23, sont prêts à tout pour déstabiliser les pays à partir de Kinshasa, de Goma, de Lubumbashi ou de partout. À ces propos, moi-même, j'ai eu l'occasion de rencontrer la représentante de Human Rights Watch ici. Elle a eu l'occasion de rencontrer les responsables du CNC. C'est la preuve que nous n'avons justement rien à cacher. Mais ici, il ne faut pas empêcher aux services des sécurités de faire leur travail dans un contexte où nous tous nous parlons d'infiltration. Lorsque les services travaillent pour que, au nom de la sécurité nationale, de la sécurité collective, on puisse s'assurer que nous prévenons sur des actes éventuels qui peuvent être posés par l'un ou l'autre individu, on ne peut pas leur empêcher de faire leur travail.
Patrick Mouyayakatembwe, ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement, je vous dis merci beaucoup.
C'est moi qui vous remercie.
Et c'est la fin de ce journal préparé par Jude Mister Bilanda, mis en onde par André Mongou, avec Babel Pongo Massimango à la présentation. Bon week-end à toutes et à tous.